Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans quelques instants. Vos questions sur l'actualité dans une demi-heure à 9h40, ce sera le débat du jour. Comment attirer les investisseurs étrangers en Centrafrique? Un forum des investisseurs en tout cas se déroule depuis hier et jusqu'à ce soir à Bangui. 70 délégations environ qui viennent essentiellement d'Afrique et d'Europe pour faire des affaires et pour voir si c'est possible. Le gouvernement du président Touadéra en tout cas veut montrer que la Centrafrique est une terre d'opportunités avec d'énormes ressources, un sous-sol très riche, des forêts, de l'agriculture, l'élevage, la construction d'infrastructures. Et pourtant, la Centrafrique aujourd'hui est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le pays est en crise depuis 2013. 70 à 80% du territoire reste contrôlé par des groupes armés. Puis on constate un regain de tension depuis le début de l'année, des centaines de morts. Alors dans ce contexte, est-il possible d'investir en Centrafrique? Est-ce crédible? Comment relever ce défi? Votre avis évidemment nous intéresse. Vous nous écrivez par mail sur la page Facebook de l'émission et vous nous appelez 33 9 693. 693 70. Mais avant cela, comme promis, vos questions sur l'actualité. Bonjour Alseni Djoria.
Bonjour monsieur Alexis.
Vous nous appelez de Guinée à Conakry et vous avez une question sur le Mali.
Oui, j'ai des questions sur le Mali.
On vous écoute.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer monsieur Juan Gomez qui me manque énormément.
Eh ben, il nous manque aussi, bon. on le retrouvera dès demain. Allez-y, on vous écoute Alseni.
Monsieur Alexis, j'ai appris à la RFI que les 17 militaires maliens qui ont été arrêtés concernant l'assassinat de 21 bleus rouges en 2012 ont entamé une grève de la faim pour qu'ils puissent être enfin jugés. Pourquoi les militaires arrêtés n'ont pas encore été jugés? Est-ce que les autorités maliennes ont réagi face à ce phénomène?
Alors pour y répondre, on retrouve en ligne avec nous Serge Daniel. Bonjour Serge. Serge Daniel, vous êtes avec nous, Serge? Non, apparemment, on n'a pas Serge Daniel. On va passer pour le moment à l'auditeur suivant, la question suivante. Bonjour Miesso.
Bonjour Alexis Fricker.
Alors avant de répondre à la question sur le Mali, on vous écoute, vous nous appelez de Kara au Togo et vous c'est le Libéria qui vous interroge aujourd'hui.
Oui, Alexis Fricker.
Alors allez-y.
Donc Alexis Fricker, j'appelle au sujet précisément des élections présidentielles au Libéria dont le premier tour a eu lieu le 10 octobre passé.
Oui.
Le deuxième tour est initialement prévu sur le 7 novembre, mais à la veille de cette date, la Cour suprême a suspendu le processus électoral. Maintenant, quelles sont les irrégularités qui entachent ce processus électoral et pourquoi la Cour constitutionnelle a attendu jusqu'au dernier moment pour suspendre le processus électoral?
Merci Miesso. Nous sommes en ligne avec Gilles Yabi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et cofondateur du WATI, qui est un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, justement, qu'est-ce qui a motivé ce report du deuxième tour de la présidentielle au Libéria?
Alors, je crois que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au Libéria, la commission électorale est vraiment responsable de l'intégralité du processus électoral. Et que les résultats qui ont été proclamés le 19 octobre sont des résultats au fond définitifs. La possibilité qui est ouverte aux candidats, c'est de porter plainte auprès de la commission électorale lorsqu'il y a effectivement des irrégularités ou des problèmes qui peuvent entacher justement le scrutin et la crédibilité des résultats.
Et c'est justement ce qu'a fait le troisième, celui qui est arrivé troisième à ce scrutin, Charles Bromskin.
Oui, exactement. C'est ce que Charles Bromskin a fait. Mais disons, dans un premier temps, il a porté plainte auprès de la commission électorale qui devrait examiner ils ont fait ces plaintes et cette dénonciation d'irrégularité, mais en l'absence de réaction de la commission électorale, et d'ailleurs le président de la commission avait estimé que les dénonciations de fraude étaient totalement infondées, et donc en l'absence d'une étude par la commission électorale de cette plainte, le candidat a saisi la Cour suprême pour demander à la Cour suprême, au fond, d'enjoindre à la commission électorale de suspendre la préparation du second tour et, au fond, d'obliger la commission électorale à examiner les plaintes qui ont été formulées.
Alors, les résultats de ce premier tour du 10 octobre de la présidentielle au Liberia montrent que George Weah est arrivé largement en tête. George Weah, l'ex-footballeur de la Coalition pour le Changement Démocratique, devant le vice-président Joseph Boakai, près de 29%. Est-ce que ce report est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour George Weah?
Alors, George Weah est arrivé en tête, donc c'est d'abord une mauvaise nouvelle pour lui, mais d'abord, il est arrivé en tête avec à peu près 10 points de plus que le vice-président. C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas une garantie suffisante pour l'emporter au second tour, parce que les jeux des alliances va être important. Donc, de toute façon, l'élection n'était pas gagnée pour George Weah. Ensuite, il faut bien aussi comprendre que pour l'instant, on n'a pas une annulation du premier tour, on a simplement une injonction de la Cour suprême à la commission électorale pour que les plaintes soient examinées dans le fond par la commission électorale. Et c'est sur la base, cette fois-ci, de ces audiences qu'on saura si la Cour suprême décide ou non d'annuler le premier tour. Donc, au fond, rien n'est joué à ce moment précis au Libéria.
Et je précise que la commission électorale, en tout cas, a jusqu'au 22 novembre prochain pour répondre à la plainte qui a été déposée. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Yabi. Il est 9h17. Et ça y est, la ligne fonctionne. On retrouve notre auditeur, Alcéni Djoria. Vous nous demandiez, Alcéni, à propos du Mali, pourquoi les militaires qui sont en prison ont entamé une grève de la faim et pourquoi ils n'ont pas encore été jugés. Eh bien, on a retrouvé Serge Daniel, notre correspondant au Mali. Serge, pourquoi Amadou Sanogo et ses co-accusés sont-ils encore en prison à attendre leur procès aujourd'hui?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont déjà comparu une première fois en novembre 2016. C'était lors d'une cour d'assises qui s'est déroulée dans la ville malienne de Sikasso. Mais très offensif à l'époque, les avocats de la défense ont obtenu le report du procès. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à démontrer devant la cour que les conditions dans lesquelles l'identification des restes des 21 militaires des Rérouges ont été, les conditions dans lesquelles ces identifications ont été faites, ne respectaient pas la loi et qu'il fallait recommencer les analyses pour être sûr que le charnier qui a été découvert à Bamako en 2013 contenait bien le corps de ces militaires disparus. Donc, l'une des pièces centrales de l'accusation, permettez l'expression, était tombée à l'eau. Alors, le procès a été renvoyé parce que la Cour avait annoncé qu'il y aurait de nouvelles analyses, mais depuis plus rien. On attendait le procès, la reprise du procès pour le mois de janvier 2017, mais depuis, pas de nouvelles.
Alors, justement, pourquoi les autorités, pourquoi le pouvoir central ne commente plus ce dossier, ne donne plus signe de vie là-dessus?
Alors, officiellement, il n'y a eu aucun commentaire sur cette grève de la faim, par exemple, des militaires. Certains militaires qui observent cette grève de la faim ont écrit au ministre de la Justice, nous avons une copie de la lettre, il dénonce, je cite, une détention arbitraire, mais récemment, selon la presse malienne, le ministre de la Justice aurait reçu des journalistes maliens, et il aurait annoncé que bientôt, on aurait les résultats de ces analyses. Donc, il faut attendre pour voir, il y a quand même un contexte, il faut le dire, c'est qu'on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on va les juger, nous sommes en 2017, l'année prochaine, c'est une année des élections, comme vous le savez au Mali, oui. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce procès. Est-ce que le procès va avoir lieu ou pas? La question reste entière.
Et Serge, on a également lu que le général Sanogo a dit qu'il aurait éventuellement des choses sur des gens, en tout cas ça reste très vague, et qu'il pourrait parler, transformer en tout cas son procès en tribune.
Ah, tout à fait, nous, il l'a dit. Le seul journal qu'il a reçu dans son lieu de détention, c'est RFI, et c'est moi qui effectue le déplacement.
Ce serait une raison?
Et on se demande si, justement, à l'époque, il disait qu'il avait des choses à dire. Alors, on se pose la question de savoir si on veut empêcher des déballages. Il a des choses à dire. Je ne dirais pas que c'est une raison, mais je ne dirais pas que ce n'est pas une raison.
D'accord, donc le mystère et le flou reste entier. Merci Serge Daniel, correspondant de RFI au Mali. 33 9 693 693 70, le débat d'appel sur l'actualité dans 20 minutes consacré aujourd'hui au forum des investisseurs en Centrafrique, plus de 70 délégations africaines et européennes notamment qui sont présentes depuis hier et jusqu'à ce soir à Bangui. Mais pour le moment, c'est les questions sur l'actualité qui continuent, et en ligne avec nous, Abakar, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, et vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le déplacement de Donald Trump en Asie, cette tournée d'une dizaine de jours au total. Donald Trump, aujourd'hui, qui est en Chine, dans le cadre donc de cette tournée, qu'il a commencé au Japon, il s'est rendu ensuite au Corée du Sud, et ce qui domine notamment ce déplacement, c'est la tension, c'est la crise en cours avec la Corée du Nord autour de la question du nucléaire. On vous écoute, Abakar.
Tout à fait, Alexis. Il y a deux semaines, des milliers de Sud-Coréens ont manifesté contre la venue de Donald Trump, qui est favorable à une solution militaire face à la Corée du Nord. Quelle est la position, j'aimerais savoir, quelle est la position du gouvernement sud-coréen et quel est l'intérêt de Donald Trump dans cette escalade du conflit?
Merci, Abakar. En ligne avec nous, Juliette Morio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des Corées. Vous avez notamment écrit La Corée du Nord en 100 questions. Alors, justement, comment Donald Trump peut-il concilier d'une certaine manière son envie guerrière et aussi l'apaisement, l'envie de dialogue?
Mais de toutes les façons, Donald Trump s'est mis lui-même dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire il a fait monter les enchères extrêmement haut sur la péninsule coréenne, et je pense qu'il n'y a pas d'issue. De toutes les façons, par la force, le danger de dérapage est trop grand, et on est obligé de revenir à la diplomatie. Curieusement, le voyage de Donald Trump actuellement en Asie et se passe relativement bien, c'est-à-dire il n'y a pas de déclaration fracassante, il ménage, il a finalement pas mal ménagé les Sud-Coréens, et on
alors demande... qu'on pouvait redouter justement que ce déplacement à Séoul soit un peu plus compliqué que la réception au Japon.
Oui, mais en même temps, on se demande si c'est pas l'accalmie avant le cyclone, parce que vous avez également des manœuvres qui vont démarrer avec trois gros porte-avions d'ici une dizaine de jours et qui risquent de tout échauffer sur la péninsule. Alors, pour revenir à la question de notre auditeur, c'est les Sud-Coréens sont un petit peu entre deux chaises. C'est-à-dire, avec les États-Unis, il y a toujours eu cette relation amour-haine depuis des années. On est reconnaissant aux États-Unis de placer des troupes en Corée du Sud pour les défendre contre la Corée du Nord, mais en même temps, leur présence est envahissante et les Coréens ont l'impression d'avoir jamais été maîtres de leur destin. Et il y a un clivage très net dans la société sud-coréenne. D'une part, vous avez des conservateurs qui appellent finalement à une réaction forte et au soutien des États-Unis. C'est ceux qui étaient... pour schématiser, qui ont voté, qui étaient pour l'ancienne présidente qui était destituée, et puis vous avez toute une jeune génération, voilà, Park Geun-hye, et vous avez toute une nouvelle génération qui a élu le nouveau président Moon Jae-in, qui est pour un apaisement. Et finalement, au quotidien, dans la capitale sud-coréenne, on ne redoute pas tant que ça la Corée du Nord. Ce qu'on redoute, c'est le côté va-t-en-guerre de Donald Trump qui entraînerait bien sûr la péninsule dans un conflit dévastateur.
Et Donald Trump qui est intervenu devant l'Assemblée nationale sud-coréenne mercredi et qui a rappelé qu'il espère contraindre la Corée du Nord à abandonner totalement ses programmes nucléaires et balistiques, mais sans recourir à une confrontation militaire. Et malgré tout, Donald Trump a lancé un appel à la Chine et à la Russie. Alors comment Donald Trump peut-il espérer s'appuyer sur ces deux pays-là, Juliette Morio?
Bon, alors, la Chine n'est pas la clé des tensions sur la péninsule, je l'ai souvent répété, c'est-à-dire que Donald Trump a essayé un petit peu tout, il a essayé le bâton et la carotte avec la Chine, tendre la main, ne pas tendre la main, mais la Chine, d'une part, Pyongyang ne se laissera jamais dicter quoi que ce soit par Pékin, parce qu'ils n'ont pas confiance en la Chine, et puis la Chine a besoin de l'état tampon nord-coréen face à la Corée du Sud. Mais ce qu'il faut se demander, c'est l'intérêt que Donald Trump a véritablement dans l'escalade du conflit avec la Corée du Nord, parce qu'il rompt avec des années de patience stratégique de Barack Obama.
C'est ça, oui.
Et finalement, il faut se dire que derrière cette confrontation qu'il a avec la Corée du Nord par Corée du Sud, finalement très faible, interposée, la Corée du Sud n'est pas maîtresse de son destin, elle est un petit peu pieds et poings liés par les États-Unis. C'est simplement, derrière tout cela, il y a l'affrontement finalement Washington-Pékin. Et finalement un affrontement et le renforcement d'une Corée du Sud américanisée, ce serait pour placer les États-Unis face à la montée en puissance chinoise. Donc derrière Pyongyang, il ne faut pas oublier qu'il y a Pékin.
Donc ce serait une position stratégique sur divers plans, économiques et notamment géopolitiques. Merci Juliette Morillo. Il est 9h25 et on accueille maintenant Jima en ligne avec nous de Cotonou. Bonjour.
Bonjour, Alexis Fricker.
Alors, votre question concerne une décision de la justice allemande. On vous écoute.
Oui, exactement, Alexis. La Cour constitutionnelle allemande a donné à la Chambre des députés jusqu'à fin 2018 pour voter sur la légalisation d'un troisième sexe sur les actes de naissance. À cet effet, je voudrais savoir, Alexis, qu'est-ce qui a pu pousser la justice allemande à prendre cette décision? Et secondo, et pourquoi la Chambre des députés peut-elle s'opposer à cette décision de la Cour constitutionnelle?
Merci, Jima. Pour y répondre, nous avons avec nous Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Alexis.
Correspondant de RFI à Berlin. Alors Pascal, qu'est-ce qui explique ce choix pour voter la légalisation d'un troisième sexe, ce choix de la plus haute juridiction allemande?
Bon, alors, il faut d'abord rappeler tout simplement que la Cour constitutionnelle a été saisie par une plaignante, Vania, un intersexuel de 28 ans, qui avait été déboutée par la Cour de cassation et demandait à obtenir cette possibilité. La Cour, comme elle l'a souvent fait pour d'autres minorités, soldats, pacifistes, homosexuels, a mis en avant les droits individuels et estimé que les dispositions actuelles étaient contraires aux droits fondamentaux contenus dans la Constitution sur le respect du droit de la personnalité et sur la nécessité de ne pas discriminer des personnes pour des raisons sexuelles, d'où la décision d'imposer à l'avenir un troisième sexe à côté de féminin et masculin.
Alors il faut dire, Pascal, que ce n'est pas tout à fait nouveau en Allemagne, en tout cas la mention d'un troisième sexe elle est, mais jusqu'à présent il était tout de même possible de ne pas choisir entre masculin et féminin.
Oui, disons que depuis 2013, il était possible dans les à l'état civil, dans les actes de naissance, de laisser la case sexe vide. Mais une case sexe vide signifie aussi que vous êtes quelque part un ovni. Et donc la Cour constitutionnelle a estimé que le respect de la personnalité imposait que on ne soit pas seulement une case vide, mais qu'on ait une case à part entière, pour faire simple.
Il s'agit donc de donner un cadre plus structuré en fait à la définition du sexe. Le deuxième aspect de la question de notre auditeur Jima, c'est est-ce que les députés peuvent s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle?
Non, cette décision est impérative et c'est vrai que c'est quelque part aussi une spécificité allemande, le fait que régulièrement la Cour constitutionnelle, puisqu'elle est la plus haute juridiction, estimant qu'une réglementation n'est plus conforme à la Constitution, aux droits fondamentaux, impose aux législateurs de travailler dans un délai donné, en l'occurrence jusqu'à la fin de l'année prochaine. Alors on peut-être traîner des pieds, faire ça au dernier moment, faire ça plus rapidement. Les conservateurs ne sont sans doute pas forcément foncièrement enthousiastes par cette disposition, mais ils peuvent difficilement s'y opposer. Ils peuvent évidemment adopter une loi qui serait retoquée, c'est aussi possible, bien sûr quelques années sans doute plus tard par la Cour constitutionnelle.
Merci Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin. Et puis je précise donc que si les députés allemands valident justement la demande des juges constitutionnels, eh bien cela fera de l'Allemagne le tout premier pays en Europe à reconnaître officiellement un troisième genre, comme cela existe déjà en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde ou encore au Népal, où la ville de New York qui en 2016 avait délivré le premier certificat de naissance mentionnant un troisième sexe. Quant à un troisième sexe, décidément, je n'arrive j'arrive pas trop à prononcer cette expression-là. En France, en tout cas, il faut savoir qu'en mai dernier, la Cour de cassation, elle, avait rejeté la mention de sexe neutre, ce qui avait donc écarté la demande d'une personne qui était née sans manifestation d'organes génitales définis et précis. Les 9h29, vous écoutez RFI. Dans une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal. Et dans une dizaine de minutes, le débat d'appel sur l'actualité qui est consacré aujourd'hui au Forum des investisseurs en Centrafrique. 70 délégations qui viennent essentiellement du continent africain et d'Europe pour voir s'il est possible aujourd'hui et également envisageable de faire des affaires en Centrafrique.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.